Vous écoutez Patrice Perrin, l'amoureux des lettres, pour son émission au Café littéraire. Bonjour, vous êtes bien sur Radio B 90 FM, la radio des bonnes ondes, avec Patrice Perrin, l'amoureux des lettres, pour son émission au Café littéraire. En ce mois d'avril 2023, il vous parlera de nombreux voyages. Le premier avec Patrice Guin aux îles Féroé, puis avec Maud Caux de Ravensbrück à son jardin de roses de Saint-Maurice de Raymond dans le Bugey, et puis les cimes des montagnes avec Toine Hegemann, puis de Michel Bussy, un grand roman dans les Ardennes. Un roman noir en Écosse de Lucy Bank, et pour finir, de la grande pagode du portugais Miguel Simonski. Donc vous voyez, on va beaucoup voyager. Et je commence avec Patrice Guin, que j'ai rencontré à la librairie Montbarbon il n'y a pas très très longtemps. Il est venu dédicacer ses ouvrages et parler aussi. Les brouillards noirs, c'est son nouveau roman qui vient de paraître chez Albin Michel. Donc je commence par, comme je l'ai dit, par Patrice Guin. Lire Patrice Guin, c'est quelque chose de profond et d'inquiétant. Face à la violence des hommes et aux mensonges. Je l'ai rencontré grâce à la complicité de Pierre Suchaud, qui travaille aux éditions Le Mot et le Reste, qui l'ont déniché avec bonheur, depuis la lecture de Denali, Le Sourire du Scorpion, Terre Fauve, De Silence et de Loup, j'éprouve un engouement pour lui et son œuvre. Une fascination pour ses talents de montagnard averti. Né à Nantes en 1961, il me semble qu'il est aussi géographe et arpenteur du monde sauvage, qu'il semble bien connaître. Et qu'il a vraiment fréquenté. C'est pour ça qu'il ne sait jamais, quand il va écrire un livre, d'où ce livre va partir. Alors, avec Terre Fauve, que j'ai relu il n'y a pas très très longtemps, qui se déroule en Alaska, dans une nature vraiment sauvage, en plus de la méchanceté des hommes, on se retrouve à Valdez, en Alaska. En les relisant en version poche, j'ai bien retrouvé les intrigues. De celui-ci, le personnage, un écrivain, doit terminer les mémoires du gouverneur de l'État de New York. Afin d'étoffer son livre d'un chapitre élogieux, il doit recueillir les confidences d'un alpinisme de renommée mondiale, ami proche de l'homme politique. Mais en fait, c'est un aventurier, un faux aventurier. David en apprend beaucoup trop et il est abandonné, seul et démuni, dans la nature austère et glaciale, avec la menace de la faim et des ours, oui, qui vont même l'attaquer. Il devra apprendre à sauver sa peau et révéler la face cachée des choses, et même faire parler deux témoins clés. Et par le Yukon qui s'écoule en Alaska, mais qui vient bien du Canada, par le Yukon, ce personnage de David va, à la fin du roman, rejoindre Portland, où il retrouvera sa sœur Clarissa et ses neveux qui sont à la dérive et qui ont vraiment bien besoin de lui et de son nouveau savoir-faire, parce que au cours de ce voyage en Alaska, il a été formé par des âmes fortes rencontrées, grâce à la Providence aussi. Donc voilà. Pour De Silence et de Loup, que je viens de relire en livre de poche, je me souvenais bien de Anna et Tixi, la ville portuaire oubliée aux confins de la Sibérie, de l'équipe de scientifiques qui s'apprête à hiverner sur la banquise à bord d'un voilier, mais il va y avoir des drames, fonte de la glace, affrontement d'ours, loups, virus, chasseurs d'ivoire de mammouth, voilà. Mais pas du frère coupable et moine à la grande chartreuse pour tenter d'expier une faute impardonnable que... Je vous laisserai découvrir, si vous n'avez pas lu, ce roman de silence et de loup, parce que Anna, c'est dans le silence, et face à un loup, mais un loup qui ne lui voudra rien, au contraire, la guider, et bien que Anna va prendre conscience des choses. Voilà. Alors, donc, le nouveau roman de... Patrice Guin s'appelle Les brouillards noirs, qui vient de sortir donc chez Albin Michel. Pourquoi Albin Michel ? C'est parce que donc maintenant il se trouve à la retraite et donc plus libre d'écrire. Et il écrira un livre par an. Et Albin Michel lui a proposé de devenir son éditeur, donc il va lui apporter un peu plus d'argent, donc il peut vivre maintenant vraiment de sa plume. Alors, Les brouillards noirs, j'ai adoré ce nouveau roman de Patrice Guin, car je suis moi-même féru de musique classique, comme vous le savez, parce que par mes choix musicaux, et donc très proche du narrateur de cette histoire. Il était violoncelliste, soliste à l'Opéra de Lyon, un père qui sera rongé par le doute et l'angoisse et qui devra partir à la recherche de Maud, sa fille, dont il a été séparé par Nathalie, son ex-femme, pendant 11 ans, lui reprochant de n'être jamais là, ni pour elle, ni pour sa fille, l'accusant aussi de boire, une addiction, et obtenant le divorce pour partir. Elle va se remarier et vivre à Bruxelles. Alors le divorce prononcé pour lui, ce fut une vertigineuse dégringolade avec dépression, très difficile de se remettre. Mais cette nouvelle demande surprenante de Nathalie, qui n'arrive pas à savoir ce qu'est devenue sa fille, Maud, leur fille Maud, va le relancer dans la bataille, parce que lui, pour un père, sa fille, c'est tout. Et donc il va, le feu vert va s'aviver de nouveau sous des vins nauséabonds. Lui qui est contre toute violence, il va gagner les îles Féroé, voilà. Heureusement, il y a un plan dessiné qui est joint à ce roman noir, ce qui nous permet de suivre tout son parcours sur cette terre sauvage et intimidante. Royaume de brume et de tempête à l'écart du monde. Et il découvre aussi, et nous, avec lui, nous découvrons sur cette île Féroé des traditions sanglantes et archaïques contre des baleines. Voilà, je vous livre le secret. Enfin, les baleines, les animaux qui sont combattus, ceux qui sont assassinés. Voilà. Protégé par des insulaires qui sont hostiles et que combattent les militants d'une ONG dont Maud faisait partie. Alors il va rencontrer Martha et Neil qui font eux aussi partie de cette ONG et qui vont l'aider à retrouver les traces de Maud. Car les autorités semblent indifférentes ou complices et elles retardent l'enquête alors que les brouillards noirs, c'est une des spécificités de ces îles Féroé, les brouillards noirs qui s'emparent de l'archipel vont troublant davantage les pistes qui pourraient mener à la jeune femme engagée dans cette lutte. Pour finir, ce roman était une merveilleuse histoire, car ici, Patrice Gain explore la relation secrète qui existait entre un père et sa fille adorée. Un roman d'atmosphère, une immersion totale dans un univers dantesque qui nous emporte loin, très loin, ça je peux vous l'assurer. Donc lisez ces Brouillards noirs de Patrice Gain, qui vient de paraître chez Albin Michel, vous ne le regretterez pas. Et puis j'ai un deuxième livre qui est aussi très important. Qui s'intitule « La douceur » de Étienne de Montetti, qui vient de paraître chez Stock. Je remercie Stock parce qu'elle a attiré mon attention dessus. Et même si c'est une œuvre romanesque de Étienne de Montetti, « La douceur » a le grand mérite de sortir de l'ombre une Française au charme insolite. Elle s'appelle Médecaux, une noble Médecaux, qui préside la Fédération internationale de la rose, qui célèbre sa 23e convention et en Australie, à Constantia, où l'on peut admirer un grand jardin riche de 5000 espèces en pleine ville. Médecaux est grande, les cheveux ramenés sur sa nuque en un chignon retenu par des peignes. Elle est vêtue d'un tailleur bleu clair assorti à ses yeux. La grâce d'une femme septuagénaire, mais qui en paraît moins. Sa blondeur légèrement cendrée éclaire son visage. Sur son corsage, une petite barrette de décoration, la Légion d'honneur. Et oui, cette femme qui en impose et fascine va accepter avec ce livre, pour la jeunesse, de sortir de l'ombre. En parlant de son passé de résistante, et le fait d'avoir été déporté à Ravensbrück, comme des milliers d'autres femmes. Ravensbrück, un nom terrible. À Ravensbrück, à 18 ans, découverte pour elle de la souffrance et des amitiés. Dans cet univers concentrationnaire, les règles de la vie en société n'existent plus. Même les individus sont supprimés. C'est la collectivité qui importe. Après tant d'épreuves, Médecaux a placé très haut la fraternité et la solidarité des femmes entre elles pour survivre dans cet univers concentrationnaire. Les mois que j'ai passés, dit-elle, à Ravensbrück, m'ont servi de formation dans la souffrance, car à son époque, avant 40 ou 45, c'est là que ça se passe dans ce livre, les jeunes filles ne faisaient pas d'études. Donc c'est vraiment là qu'à Ravensbrück qu'elle va avoir une formation dans la souffrance. Elle a connu là la cruauté et la plus haute humanité. Elle a côtoyé des monstres, mais aussi des héroïnes qui vont l'aider à survivre, et des saintes même. Elle est croyante. Bon. Elle y a appris ce qui fait la valeur d'une vie. Libérée comme Germaine Tillion, Manette Contant, Annelise d'Argence, et bien d'autres, il y a Geneviève de Gaulle, il y a bien d'autres personnes qui ont été libérées Grâce à l'intervention de la Croix-Rouge suédoise. Alors là, je dois parler d'un livre, Les mains du miracle, de Joseph Kessel, qui avait attiré il y a quelque temps déjà mon attention sur ce Félix Kersten, le soigneur de Himmler. Il avait de grandes souffrances et lui savait le masser, le soigner et atténuer ses douleurs. Et en échange de ça, il passait une liste de personnes enfermées dans les camps. Et c'est ainsi que beaucoup de femmes ont pu sortir de ces camps de la mort, avant d'être exécutées, bien sûr, dans ce camp de la mort, et puis d'être libérées. Donc de Ravensbrück. C'est ainsi que Maud de Caux va revenir à Saint-Maurice-de-Raymond, près d'Ambérieu-en-Bugey, et qu'elle devra revivre une renaissance grâce à son mari, Paul de Caux, qu'elle va retrouver, qui a été un aviateur pendant toute la guerre dans l'ensemble Normandie-Niémen. Mais donc elle retrouve son mari, attentionné et aimant, et ce sera très très important parce que après une telle épreuve à Ravensbrück, elle avait peur de tout, des armes, de tout, du bruit, de tout. Et c'est à la roseraie qu'elle va créer dans ce jardin de Saint-Maurice-de-Raymond. Et cultiver en souvenir de cette rose, parce que elle a cueilli une rose, elle a découvert à Ravensbrück dans un jardin interdit, une rose qu'elle va arriver à cueillir et ramener comme un trésor, un éclat dans le gris funeste, la beauté au milieu de la monstruosité, cette rose, voilà. Elle sera à l'origine de sa renaissance. Il faut vraiment lire ce roman témoignage. La douceur de Étienne de Montetti, parce que elle s'attarde, elle va prendre la parole et puis elle s'attarde sur cette rude convalescence après une telle épreuve qui va la hanter longtemps. Donc il faudra beaucoup de temps et de patience à elle et à son mari pour renaître. Peu à peu, grâce aux roses, et puis au temps. La douceur, c'est de la tragédie et la douceur des roses. Alors je voulais vous lire quelques passages. Février 45. Tous les jours, je me suis mis du rouge aux lèvres. Quand mon visage paraissait trop pâle, mon teint terreux, je rosissais mes pommettes, mon bâton ne me quittait pas, il était mon arme de résistance. J'avais tout perdu, fort la coquetterie. Je me mourais du typhus, comme malheureusement beaucoup sont morts du typhus, et je ne le savais pas. J'avais, je crois, une mine à faire peur, non seulement décharnée, mais la mine. Quand un SS est entré dans le dortoir du Revier, c'est-à-dire du dortoir, pour remplir son sinistre contingent de femmes destinées au crématoire, Maria n'a rien dit. Elle a lâché son crayon et pris d'autorité le tube sur la table, puis en deux gestes, elle m'a apposé du rouge aux joues. L'Allemand est passé entre les lits, son regard ne s'est pas arrêté sur moi. Dehors, un camion attendait, moteur allumé, pour aller au crématoire. Je voulais lire aussi un autre passage, parce que pourquoi n'a-t-elle pas parlé avant aujourd'hui, avant la naissance de ce roman ? Parce que ça fait peur. Plus loin dans le roman, les morts ont donc bien tort de revenir. Ils dérangent par leur seule présence. C'est humain. Les Français veulent tourner la page au plus vite. Après ces années d'occupation et de privation, ils veulent vivre, voyager. Les prisonniers, les déportés sont des témoins encombrants de cette période sinistre. Alors ils peuvent revenir à condition qu'ils se taisent. Voilà. Donc, je voulais m'attarder un peu sur ce grand témoignage. Unique témoignage, je dirais, parce que c'est vrai passer de la tragédie à la douceur des roses, parce que c'est elle-même, mais de Bois de Saint-Raymond, qui a accepté, grâce à Étienne de Montety et un autre personnage, à sortir de l'ombre et témoigner de cette aurore pour la jeunesse, contre l'oubli. Et La douceur des roses, le titre de ce roman, c'est parce que c'est ce qu'elle trouve de beau dans une rose. C'est sa douceur, voilà. Non pas les épines, mais sa douceur. Voilà. Et je passe au troisième roman que j'avais prévu de vous présenter. Trois vies par semaine. C'est de Michel Bussy. On le connaît, Michel Bussy, mais j'ai l'impression de le retrouver, de le redécouvrir avec ce nouveau roman intitulé « Trois vies par semaine ». Michel Bussy vient de paraître aux Presses de la Cité. Un grand moment. Michel Bussy tisse la toile de ses romans avec sa signature unique, c'est-à-dire avec virtuosité, tension extrême et émotion. C'est le roi de la manipulation, capable de tenir ce tour de force, de mêler dans ce roman, Trois vies par semaine, les Ardennes de Arthur Rimbaud, souvenez-vous du bateau ivre, et les marionnettes de Pilsen en Bohème. Pilsen est réputé pour la bière, pour ceux qui aiment les bières, la bière Pilsen, mais aussi parce que Skoda a son siège, les voitures Skoda à Pilsen, et on découvre les marionnettes de Pilsen. Pendant le festival où l'un des personnages centraux de cette histoire a été confronté à l'horreur. Mais ça, on ne va pas le découvrir tout de suite, on va le découvrir peu à peu au milieu du roman « Trois vies par semaine ». De quoi déconcerter la capitaine Catel Marel, qui est chargée de l'enquête, dans ce nouveau roman de Michel Bussy. Parce qu'il y a un mort, deux disparus et trois femmes amoureuses éloignées les unes des autres. En effet, un corps a été retrouvé dans la vallée de la Meuse, au cœur des Ardennes. Est-ce un accident, un suicide possible ou un meurtre? Alors le temps de déterminer l'identité de la victime, eh bien, Catel Marel sera plongée dans la sidération. Et nous, on peut dire aussi, parce que la victime, Renaud Duval, semblait mener trois vies par semaine. Pourquoi? Parce qu'elle avait trois passeports, même identité, mais avec trois noms différents. Et le lecteur va rejoindre ces trois femmes qui attendent son retour. La première est dans les Ardennes, donc toute proche, donc on va faire connaissance avec elle, mais les deux autres un peu éparpillées. Chacune revendique d'être son unique amour. Ensemble, elles vont tenter de percer l'énigme d'une impossible triple vie. Mais comme dans un théâtre d'illusions, avec les noms, est-ce Milana ou Mina, ou les marionnettes, telles que la célèbre marionnette de Pilsen qui s'appelle Petrouchka. Donc, à vous de découvrir, parce que les ombres rôdent, il y a deux tueurs, des fils invisibles. Donc, les ombres rôdent, prêtes à se venger. Alors, qui sait la vérité? Qui manipule? J'ai parlé de manipulation. Et c'est vraiment jusqu'au bout que on assiste à des manipulations. Il faut vraiment aller jusqu'au bout de ce roman haut en couleur pour le savoir. Voilà, on va pouvoir écouter une musique. Les Forains de Henri Sauguet avec un arrangement de Jean-Charles Capon au violoncelle et le grand Richard Galliano à l'accordéon. Un duo atypique et merveilleux. Voilà, une bien belle musique, devenue même classique hein, par ces deux grands interprètes. Le quatrième roman nous porte sur les cimes des montagnes. Ça s'appelle « Dette d'oxygène ». Je vous raconterai pourquoi « Dette d'oxygène », ce titre. C'est de Toine Eschmann et ça vient de paraître chez Bellefond. Un très bon éditeur pour moi. Avec ce nouveau roman, Toine Egeman, auteur néerlandais, nous entraîne ici à la montagne, mais comme je l'ai dit, sur les cimes des montagnes. Tout à la fois roman d'aventure et roman d'apprentissage, c'est une œuvre intense et fascinante sur l'amitié, la majesté de la nature et la violence des cimes, car dans les hautes cimes, il y a le froid, la neige, les nuages, même parfois des tempêtes. Il faut donc attendre dans les tentes ou les camps de base. Walter et Lenny sont les deux personnages principaux de ce récit. Ils n'étaient encore que deux adolescents lorsqu'ils ont découvert l'alpinisme sur le pilier d'un pont aux Pays-Bas. Bien décidés à y consacrer leur vie, ces deux garçons, issus d'un pays sans relief, sont partis ensemble dans les Alpes et vivre à Chamonix. Leur devise, toujours plus loin, toujours plus haut. Se rêvant héritier, parce qu'ils avaient beaucoup bien de bons livres, se rêvant héritier des grands héros de la montagne, tels que Whymper, Herzog, Kurtz, Bonington, Norgay, Ergrave, Messner, Mallory, Harer, Rudkiewicz, Bonatti, voilà le grand Bonatti, Rébuffat, et bien d'autres encore récités dans ce livre, Dette d'oxygène de Toine Egeman. Se rêvant donc héritier des grands héros de la montagne, ils ont enchaîné les exploits sans se rendre compte que dans l'air raréfié des cimes, d'autres lois s'appliquent. Comme je l'ai dit, d'aide d'oxygène, parce qu'il y a des moments où quand on est à plus de 8000, eh bien, on manque d'oxygène. Donc il faut avoir des bouteilles d'oxygène. Voilà d'où le titre. Alors, bien, oui, donc dans ces cimes, il y a d'autres lois qui s'appliquent, la solitude, la solidarité aussi, parfois, voilà. Bien des années plus tard, Walter, séparé de son coéquipier fétiche, car c'était Lenny qui était le premier de cordée, donc qui l'entraînait, et lui, il suivait... Voilà, ils étaient vraiment deux coéquipiers. Donc, séparé de son coéquipier fétiche, Lenny, Walter se tient dans son dernier sommet, au dernier moment dans ce livre, à 8188 mètres d'altitude, et contemple toute sa solitude, car... Sans Lenny, eh bien, il y a une part de lui qui disparaît, voilà. Alors, qu'est-ce qui l'a amené là ? Il y a une blessure, Lenny à la main, et qui est devenue leur belle amitié. C'est ce que l'on découvre dans ce grand roman, qui se lit comme dans un miroir. Dans un miroir... reflet de toutes ces aventures impressionnantes. Oui, par ce livre, vous atteindrez les cimes des montagnes grâce à Toine Egeman, un grand connaisseur, et Walter, le narrateur, de toutes ces aventures terribles. Et je passe au cinquième roman. Au cinquième roman qui s'intitule... l'oiseau de proie. Où est-ce qu'il est, l'oiseau de proie ? Ah ben oui, il est là, voilà. Voilà, Oiseau de proie de Lucy Bank. Lucy Bank, qui vient de paraître chez Bellefond Noir. C'est un roman noir, Bellefond. Tout le monde dit d'Ava, le personnage, tout le monde dit d'Ava, qu'elle est un monstre. tout le monde sauf Ava. Après 25 ans passés derrière les barreaux en prison, celle que l'on surnomme l'oiseau boucher est désormais libre. Enfin libre, un bien grand mot pour cette quinca qui doit désormais rendre des comptes réguliers à une conseillère désabusée, remettre ses émotions entre les mains d'un psy aigri et surtout vivre sous une fausse identité, sous le nom de Robin. Mais elle regrette vraiment parce qu'elle est Ava, elle n'est pas Robin, dans cette ville qu'elle ne peut quitter. Heureusement, il y a Bill, son gentil voisin, un ancien SDF qui tente de se racheter auprès des siens, qui a une fille en particulier. Un ami pour Ava, peut-être plus même, à vous de le découvrir dans ce roman. Après tout, elle a payé sa dette, elle a droit au bonheur, et tout commence bien, parce qu'elle retrouve une liberté. Mais malheureusement, quelqu'un l'a reconnue. Elle reçoit un message d'un corbeau qui la menace, la pourchasse, réclame vengeance pour ses victimes. Il y a en particulier deux victimes qui vont revenir pour la hanter et la rendre folle. Alors elle essaye bien sûr de savoir qui est ce corbeau. Et elle va se mêler un petit peu, confondre. Tout se passe en Écosse. Lucy Bank nous plonge dans la psyché d'un personnage aussi fascinant qu'effrayant. C'est un roman noir, très noir même, mais intense et sidérant, qui aborde de l'intérieur l'insécurité émotionnelle, l'humiliation et la folie, comme si le monstre devenait à son tour une victime. Oui, de Lucy Bank est une très belle écriture pour cette aventure inédite, parce que c'est vrai que on n'a pas toujours parlé de gens qui sortaient de prison pour la réinsertion possible, peut-être, inédite et noire. Oiseau, dans le titre Oiseau, car avec son père, Ava, enfant dans les îles d'Écosse, elle avait découvert le monde des oiseaux. Voilà ce que je peux vous dire sur ce roman « Les oiseaux de proie » de Lucy Bank, qui vient de paraître chez Belfond. Voilà. Alors, il me reste un sixième roman à vous présenter. « La grande pagode » de Miguel Szymanski, édité par Agulo, un éditeur que je découvre, Agulo. On est dans ce roman ancré sur le Tage, donc à Lisbonne, entre Trafaria et Belém. Le yacht d'un milliardaire chinois est le principal sujet de conversation des cafés et des allées du pouvoir. Un accord historique devrait être signé, que le Portugal s'apprête à signer avec la Chine, menace tout et tout le monde, car le Portugal, qui a été un grand pays, est un endroit stratégique. Et on va, dans ce roman, de l'environnement à la liberté, des habitants des quartiers clandestins de la rive sud aux politiciens qui s'opposent à l'hégémonie de la Pékin. Voilà, c'est ça. On découvre que même chez nous en France, ou aux États-Unis, la Chine essaye d'étendre son hégémonie. Donc, ça ne semble pas impossible que ce récit se déroule au Portugal, que ce soit impossible pour eux. La plus grande résistance vient de Climax. Climax est une sorte d'ONG, un petit groupe d'écologistes radicaux, prêt à tout pour faire échouer cet accord. Et de retour au Portugal, après un séjour à l'étranger, à Berlin, le personnage central, c'est Marcelo Silva, qui est un beau personnage, un journaliste d'investigation, qui est un beau personnage, affaibli par des mois de solitude et une crise émotionnelle qu'il avait vécue au Portugal. C'est un peu une fuite en avant qu'il est parti à Berlin. La perte de Anne, une amie très chère, qu'il a en partie élevée à la mort de ses parents. Donc Marcelo Silva, ne pense qu'à reconstruire sa vie, mais sans savoir comment. Et même s'il a changé d'allure, il a coupé sa barbe, ses cheveux sont beaucoup plus courts, il est bien habillé, donc il finit en quelques jours par se retrouver impliqué dans une série de crimes qui menacent son existence même. Alors que la nasse jetée sur le pays se referme, toutes les pièces en jeu se déplacent pour défendre leur pouvoir et leurs privilèges. Un livre, La Grande Pagode, devenu interdit, disparaît de la circulation. Alors heureusement, parce qu'il y a des raisons pour ça, Marcelo Silva va parvenir à trouver un exemplaire, un livre La Grande Pagode. Un ministre est victime de chantage. Et les Chinois, apparemment, sont très habiles à créer, justement, un chantage. Un homme noir, je le dévoile, est retrouvé mort sur une plage de Sintra, une cité pas très loin de Lisbonne, où il y a de superbes villas. Il se passe des choses dans ces villas. Avec cette grande pagode, Miguel Simansky livre un nouveau roman noir d'investigation journalistique, mais que l'on dévore, je dirais, parce que c'est vrai que ce personnage est vraiment sympathique. Il tourne peut-être en rond, il va et vient, il est plus ou moins accusé, voilà. Donc tout ça est très très bien fait. Avec beaucoup d'humour et de mordant, il dresse le portrait d'un pays qui, entre précarité et incompétence des dirigeants, est fraude par milliers et vendu pièce par pièce. Voilà, un très grand roman, La Grande Pagode de Michel Szymanski, qui vient de paraître chez Agulo, que je vous propose d'acquérir. Quand un pays est à vendre, une vie humaine ne vaut pas grand-chose, dit-il en exergue dans ce roman La Grande Pagode de Michel Szymanski chez Agulo. Eh bien, je crois que j'ai fait un peu le tour des romans que je voulais vous présenter. De nombreux voyages, voilà. Avec Patrice Guin, donc Les Brouillards Noirs qui vient de paraître chez Albin Michel, aux îles Féroé, La Douceur de Étienne de Montetti Donc, c'est la vie, on le redécouvre, la vie de May de Caux, voilà, de Ravensbrück, à son jardin de roses, qui se situe à Saint-Maurice-de-Raymond, voilà, qui est superbe à voir, presque. Et puis, trois vies par semaine de Michel Bussy aux Presses de la Cité. Un grand roman de Michel Bussy, Le roi de la manipulation, du début jusqu'à la fin, vous serez manipulé, exalté et manipulé. Dette d'oxygène, elle est sur les cimes des montagnes avec Toine Eschmans, chez Bellefond. Oiseau de proie de Lucie Banque, roman noir de chez Bellefond, Oiseau de proie, au sortir. Et puis La grande pagode de Miguel Simansky chez Agulot. Et je vais m'arrêter là-dessus et je vous lirai pour la prochaine fois. Voilà. À bientôt. Au revoir. Bonne lecture. Vous écoutez Patrice Perrin, l'amoureux des lettres, pour son émission au Café littéraire.